Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur les principaux événements de la semaine grâce au reportage de la rédaction. Une semaine marquée par le début hier des Jeux Olympiques de Tokyo que vous pouvez suivre chaque jour sur RFI avec nos envoyés spéciaux.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Où il sera question de Pegasus, un système mondial d'espionnage de téléphone et de la situation dans l'est de l'Afrique, en Éthiopie notamment. Mais pour commencer ce numéro, dans un monde où les nouvelles technologies offrent des perspectives à la fois réjouissantes et inquiétantes, il nous faut revenir sur la naissance de l'ère des voyages privés dans l'espace. Les milliardaires sont pour le moment les seuls concernés. Après Richard Branson, il y a quasiment deux semaines, l'homme le plus riche de la planète, l'Américain Jeff Bezos, a passé quelques minutes à 100 km environ autour de la Terre, juste au-dessus de l'atmosphère, ouvrant ainsi une nouvelle étape pour l'industrie naissante du tourisme spatial à Washington, Incorp.
Comment je me suis senti ? Oh mon Dieu ! S'exclame le milliardaire peu après son aller-retour express au-delà de l'atmosphère. Jeff Bezos s'est dit stupéfié par la beauté de la planète bleue.
Tous ceux qui ont été dans l'espace ont dit que ça les avait changés, qu'ils étaient stupéfaits, abasourdis par la Terre et sa beauté, mais aussi sa fragilité, et je suis entièrement d'accord. C'est une petite chose fragile, et quand nous évoluons sur cette planète, nous faisons des dégâts. C'est une chose de le reconnaître intellectuellement, mais c'en est une autre de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile.
Au cours de ce vol, Wally Funk est devenu l'astronaute la plus âgée de l'histoire, à 82 ans. Cette pionnière de l'aviation, qui avait été recalée par la NASA en raison de son sexe, a enfin pu accomplir son rêve d'espace.
J'ai attendu un long moment pour enfin aller là-haut. J'ai adoré ça. Je vais retourner très vite.
Le milliardaire a aussi emmené avec lui Olivier Damon, le premier client payant de Blue Origin. Âgé de 18 ans, il est lui devenu le plus jeune astronaute de l'histoire.
Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez aussi retrouver téléchargé sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche préféré. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un grand spécialiste du nord-est de l'Afrique, un expert qui a vécu des décennies sur le continent. Son nom, Gérard Prunier. Il vient d'écrire un texte saisissant, un pamphlet sur l'indifférence de l'Occident à l'égard de l'Afrique. « Cadavre noir », tel est son titre, et il est publié dans la collection Tract de Gallimard. Bonjour Gérard Prunier.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir, car vous êtes un nom chez les africanistes, un personnage, une personnalité. Ça vous dirait d'aller dans l'espace ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Je peux très bien imaginer ce que ça doit être, et je souhaite bon courage aux milliardaires qui s'y promènent.
Alors vous connaissez parfaitement le nord-est de l'Afrique, et ce qui vous caractérise, Gérard Prunier, c'est que votre connaissance n'est pas que livresque. Vous sentez l'Afrique, vous avez vécu en Afrique, vous êtes presque un Africain.
Ben oui, et bon, étant marié à une Africaine, ayant des enfants noirs, ayant vécu pendant un demi-siècle in and out, en rentrant et en sortant de ce continent, oui, en fait d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai même été accusé de racisme parce que je dis sans aucune gêne que la plupart des chefs d'État africains sont des canailles et que ce continent est gouverné, pas uniquement, mais en grande majorité, par des gens qui ne sont pas des idiots, mais qui sont des bandits. Et c'est épouvantable, donc on m'a traité parfois de raciste. Je dis, bah, j'accepte l'insulte, ça m'est complètement égal. Alors, parce que je sais ce que je sais.
Votre franc-parler est aussi une des choses qui vous caractérise. Et vous êtes un peu, vous avez un côté aventurier aussi, Gérard Prunier.
Oui. J'ai traîné mes guêtres à travers une bonne demi-douzaine juste comme ça de mémoire, la guerre civile au Soudan, la révolution éthiopienne, Idi Amin en Ouganda. J'ai été réfugié ougandais en Tanzanie d'ailleurs. Et j'avais une petite notoriété à l'époque parce que il y avait des copains africains qui me présentaient en disant regarde le Muzungu là que je te présente, hein. Muzungu c'est le blanc en Swahili. Lui c'est un Muzungu qui est réfugié politique ougandais.
Qu'est-ce qui vous a conduit un beau jour à arriver en Ouganda avec, si j'ose dire, Idi Amin Dada, et c'était au tout début des années 70?
Oui, ben, le chômage. Je vivais à l'époque au Canada. J'avais travaillé comme j'ai eu une vie très très variée, donc à l'époque je m'occupais d'enfants émotionnellement perturbés pour une unité sociale en Ontario, et puis j'ai perdu mon job, non en Colombie-Britannique, là oui, le job en Ontario ça marchait bien, mais en Colombie-Britannique, et j'avais pas de travail. Et puis à ce moment-là, j'ai fait des demandes de travail à droite, à gauche, et notamment à CUSO, Canadian University Service Overseas, qui était l'organisme de coopération canadien. Et bon, bah, ils m'ont trouvé un job en Ouganda, et j'étais très surpris parce que j'ai dit, c'est ce petit pays moche là, parce que c'est juste au sud du Soudan, qui était à l'époque le plus grand pays du continent, et à l'est du Congo, qui est quand même un sacré morceau. Et j'ai dit, moi, là, je vais dans tout le petit... Alors, il y a quelqu'un en rigolant qui m'a dit, bah, il y a encore plus petit, il y a le Rwanda et le Burundi. Je ne devinais pas à l'époque qu'un jour j'y irais dans des circonstances tragiques, épouvantables.
Bon. Et c'est ainsi qu'a commencé un parcours africain qui vous a conduit aussi, j'ajoute, à obtenir un doctorat en histoire africaine. Vous êtes passé par l'école des études en sciences sociales à Paris, et c'est ainsi que vous êtes devenu aussi un scientifique qui s'intéresse à l'Afrique.
Oui, bien sûr, parce que, si vous voulez, je vais vous donner une petite anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes. J'étais dans une école près de Jinja, en Ouganda, et j'enseignais l'histoire africaine, avec beaucoup de difficultés. Et les étudiants sont allés se plaindre au directeur en disant « Nous sommes des humbles fils de paysans ». Et on n'est pas là pour nous envoyer un blanc aussi bête que notre professeur d'histoire actuel, Monsieur Prunier.
Aïe.
Donc le directeur, qui était un Anglais, qui était là depuis la période coloniale, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit « This is what the boys are saying ». C'est ça que les petits gars ils disent. J'ai dit « Ben, ils ont raison. Je suis nul. Je n'y connais rien. » Bon. Et quand on m'a envoyé du Canada, on m'a pas dit que j'allais avoir à enseigner l'histoire africaine. Moi, l'histoire que je connais, c'est le Saint-Empire romain germanique, la Révolution française ou la Révolution industrielle en Grande-Bretagne. Ça, je connais. Et quand j'ai été à l'école, j'ai rien appris là-dessus.
En tout cas, vous êtes rattrapé depuis.
Eh ben, c'est ce que m'a dit le directeur. Il m'a dit, quand vous êtes aux colonies, il parlait encore avec ce vocabulaire-là, quand vous êtes aux colonies, monsieur, vous êtes obligé de faire des choses que vous n'auriez même pas imaginées dans une autre vie. Il avait raison.
Gérard Prunier, parlons d'un pays qui est au cœur de vos réflexions aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs, l'Éthiopie. On va en reparler tout au long de l'émission. L'Éthiopie qui a annoncé lundi la fin du remplissage de son grand barrage controversé dit de la Renaissance. Ce remplissage avait démarré discrètement au début du mois, malgré les mises en garde et les inquiétudes du Soudan et de l'Égypte et l'absence d'accord entre les trois grands pays riverains sur l'exploitation de cette eau du Nil. Mais désormais, le barrage va donc être préparé pour sa première production d'électricité. Léonard Vincent.
Des pluies exceptionnelles sont tombées récemment sur la région éthiopienne des sources du Nil Bleu. Aussi, le remplissage de l'immense barrage de la Renaissance a-t-il été rapide, a expliqué le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Seleshi Bekele. Le réservoir a atteint les installations de débordement et traverse également par les vannes inférieures, grandes ouvertes, a-t-il expliqué sur Twitter. La prochaine étape, a-t-il ajouté, est le début de la génération d'électricité au cours des prochains mois, sans doute dans un premier temps de 750 MW, environ un cinquième de la production nationale, sur les 5000 MW prévus une fois l'ouvrage achevé. L'objectif de l'Éthiopie est donc atteint, malgré les tensions avec ses voisins, car en revanche, ce qui n'a pas été atteint, c'est qu'Addis Abeba s'entende préalablement avec Khartoum et le Caire sur l'exploitation du débit du fleuve et sur les droits juridiques afférents. L'Éthiopie n'en démord pas, elle veut en rester à l'initiative de la présidence congolaise, qui s'efforce difficilement de monter un sommaire à trois pour régler la question sous l'égide de l'Union africaine seule. Mais le Soudan et l'Égypte veulent une implication plus large, notamment de l'ONU.
Gérard Prunier, cette histoire de barrage, outre son impact géopolitique, montre à quel point l'eau est devenue importante aujourd'hui.
Absolument.
La question de l'eau. Hein.
Absolument. Or, le Nil bleu, c'est 82% du volume de l'eau dans le Nil, si vous le regardez au Caire. C'est-à-dire 82% du Nil bleu et seulement 18% du Nil blanc. c'est-à-dire ce qui vient du lac Victoria. Et donc, le Nil bleu est... Et d'ailleurs, j'ai peur. J'ai vraiment peur parce que la famille de ma femme, soudanaise, habite au bord du Nil bleu, juste au-delà de la frontière éthiopienne, dans une grande ville qui s'appelle Wad Medani. Et s'il y a des inondations, ils finiront sur le toit de leur maison, s'ils ont de la chance.
Gérard Prunier, nous allons reparler de l'Éthiopie tout à l'heure, là sous l'angle politique, stricto sensu, et sous l'angle de la guerre. Je voudrais que nous parlions un instant de votre tract intitulé « Cadavre noir », cadavre au pluriel, noir. C'est le numéro 30 de la collection, la belle collection de Gallimard Tract, dans lequel vous écrivez ceci. « La tragédie de l'Afrique contemporaine ne se situe pas dans un immense lamento pour un passé brutal, mais plutôt dans le silence assourdi concernant la réalité quotidienne du monde noir. L'Occident se fout de l'Afrique, en fait. »
Oui, c'est épouvantable. D'autant plus, et alors, bon, ça c'est l'imbécile de la géopolitique occidentale. En 2060, un homme sur trois, enfin une femme, enfin un être humain sur trois, sera un Africain. À eux seuls, ils représenteront le tiers de la population de la planète. Ben, on s'en fout complètement, mais complètement.
Vous écrivez même, Gérard Prunier, « Le monde extérieur ne tire plus sur les Africains, ils se contentent de les voir mourir ». Phrase terrible.
Tout à fait exact. Et c'est exactement, par exemple, ce qui se passe en Éthiopie, en ce moment. C'est ce qui s'est passé quand M. Kagame a envahi le Congo et qu'il a dû causer la mort de plus de 3 millions d'êtres humains. Voilà l'opinion que j'ai du monsieur. C'est pas une opinion, d'ailleurs, c'est un fait.
Années après avoir pris le pouvoir à Kigali.
Ah oui, bien sûr, mais quand il a envahi le Congo pour poursuivre les Hutus qui s'étaient repliés au Congo, les principales victimes, ça n'a pas été les Hutus, ça a été la population congolaise.
Vous parlez aussi du Darfour, vous parlez aussi du Soudan du Sud.
Oui, le Soudan du Sud qui se battait, on disait que c'était une guerre religieuse. Ah oui, indépendance en 2011.
Donc il y a 10 ans.
Et guerre civile entre chrétiens en 2013. Et on en est à 430 000 morts. Alors, évidemment, je suis sûr que, messieurs, mesdames, vous voyez ça tous les jours dans votre journal et sur BFM TV, non? Vous ne le voyez pas? Ah ben moi non plus, voyez-vous.
C'est vrai que nous sentons un peu seuls à RFI quand nous traitons ces informations. Pourquoi avez-vous voulu lancer ce cri de colère, Gérard Prunier, vous qui avez encore une fois l'expérience de décennies d'Afrique?
Ben justement,
le moment est particulièrement critique.
Parce que bon, je suis pas noir, mais je suis africain. Bon.
Ah oui, vous êtes africain.
Donc
oui.
Je le sens. J'ai l'impression d'être méprisé. Alors non pas sur le plan académique, etc., je m'en fous complètement, j'ai pas beaucoup d'ego.
Et pourtant vous avez écrit beaucoup de livres importants, souvent en anglais d'ailleurs.
Oui, très souvent en anglais, parce que malheureusement c'est plus trop la peine de les écrire en français, il n'y a pas assez de lecteurs. Et j'ai effectivement beaucoup écrit sur les guerres, les génocides et les conflits. Les guerres du Congo, le Darfour, le génocide rwandais, évidemment, dans lequel je me suis trouvé envasé. À l'époque, j'étais au secrétariat international du Parti Socialiste et la bataille avec tous les Mitterrandiens qui trouvaient que c'était très bien la guerre. C'était avant le génocide, je vous parle de 1991-92, quand on a envoyé le corps expéditionnaire de l'armée française soutenir Abiarimana. C'est quand vous vivez ça, votre vie quotidienne. Par exemple, je me suis fait foutre dehors du bureau de Bruno Delay, qui avait remplacé Guy Penn comme le monsieur Afrique de Mitterrand, dans des termes d'une telle violence et d'une telle obscénité que je n'oserais pas les répéter dans un média public. Bon, quand vous vivez ça, vous dites « c'est pas moi ». C'est tout simplement parce que je suis un nègre blanc. Et si j'étais un nègre noir, ça serait exactement pareil.
Sept jours dans le monde.
Gérard Prunier, l'actualité cette semaine, c'est comme le titrait Le Monde mardi, les révélations sur un système mondial d'espionnage de téléphone par un logiciel baptisé Pegasus, commercialisé par NSO, une société israélienne. Un consortium de journalistes de 17 médias a mené l'enquête et a obtenu une impressionnante liste de quelques 50 000 numéros de téléphone depuis 2016, dont ceux de chefs d'État, Emmanuel Macron par exemple, et surtout des numéros de journalistes, d'opposants, de chefs d'entreprise, de diplomates, ciblés par les clients de NSO, c'est-à-dire des dizaines d'États comme l'Inde, le Mexique, la Hongrie, l'Azerbaïdjan, l'Arabie Saoudite et le Maroc, par exemple. Maroc qui aurait espionné la France, Sofia Katsenkova.
Dans cette liste de cibles potentielles du logiciel espion, on retrouve le contact d'un chef d'État et de deux dirigeants de gouvernements européens, des princes et des princesses, des chefs d'entreprise, des généraux, des militants et des journalistes. Il faut rappeler que la présence d'un contact dans cet annuaire ne révèle pas si un téléphone a été infecté par Pegasus. Mais qu'il s'agisse du Mexique, de l'Inde, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Togo ou encore de la Hongrie, l'enquête démontre que des agences gouvernementales à travers le monde ciblent leurs propres citoyens ainsi que des personnes extérieures à leur pays. Parmi les numéros sélectionnés comme cibles, ceux de plus de 180 journalistes. Le pays qui utilise Pegasus le plus, c'est le Mexique. Plus de 15 000 numéros listés, dont celui du journaliste mexicain Cecilio Pineda Birto. Il intéressait visiblement un client de NSO, l'entreprise israélienne qui vend ce logiciel espion, dans les semaines précédant son assassinat. Si depuis sa création, NSO vend son logiciel comme un outil destiné uniquement à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, l'enquête révèle que ces thématiques ne représentent en fait qu'une infime partie des utilisations.
Gérard Prunier, parmi les dizaines de pays concernés, donc par ces écoutes, il y a le Rwanda. Jeanne Richard.
Les investigations montrent que les autorités rwandaises ont ciblé plus de 3500 numéros de téléphone de militants, journalistes, opposants politiques, membres de gouvernements étrangers et diplomates avec le logiciel espion Pegasus depuis 2016. Parmi les personnes espionnées figure ainsi la fille de l'opposant Paul Rusesabagina, Karine Kanimba, qui vit actuellement en Belgique, ou encore Kassian Tamwanga, arrêté au Mozambique en mai dernier. Des personnalités politiques dans la région des Grands Lacs figurent également dans la liste des personnes visées par le logiciel espion, comme Ruakana Rugunda, qui était encore Premier ministre en Ouganda il y a un mois, ou encore Alain-Guillaume Bunyoni, Premier ministre burundais. En RDC, c'est le cas de Lambert Mende, ancien ministre de la Communication, et Albert Yuma, dirigeant de la GECAMINE et la Fédération des entreprises du Congo, proche de l'ex-président Joseph Kabila, ainsi que l'actuel gouverneur de la province de l'Ituri. Le ministre rwandais des Affaires étrangères affirme pour sa part que le Rwanda n'utilise pas le logiciel Pegasus, que le pays n'en a pas la capacité technologique, de fausses accusations, selon lui, destinées à provoquer des tensions entre le Rwanda et d'autres pays.
Avant de vous retrouver, Gérard Prunier, précisons que ce logiciel d'écoute fabriqué par la société israélienne NSO a donc été vendu à ces États avec l'aval du gouvernement, ce qu'ont relevé les journaux israéliens, correspondance de Michel Paul à Jérusalem.
En Israël, c'est le quotidien économique The Marker qui publie les détails de l'enquête menée par 17 rédactions mondiales. Le cyberespionnage, conclut le journal, est l'arme parfaite pour les dictateurs de tout genre. Les fusils et les tanks, cela passe mal sur les photos, mais la cybertechnologie, c'est transparent et facile à nier, fait remarquer encore le quotidien. Même ton pour l'éditorialiste du Yedioth Aharonot, qui parle d'un échec israélien. La high-tech, c'est la locomotive qui fait progresser l'économie israélienne, écrit le journal. Mais la start-up NSO, c'est le revers de la carte. Les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la Défense auraient dû tirer la sonnette d'alarme et faire remarquer que les transactions de l'entreprise qui a mis au point le logiciel malveillant Pegasus n'ont rien à voir depuis longtemps avec la lutte contre le terrorisme. Le quotidien Haaretz, lui, le souligne dans de rares cas, mais qui existent tout de même, des journalistes piratés par Pegasus ont été tués après avoir été choisis comme cible. Et selon d'autres articles, NSO n'est pas seul. Plusieurs autres groupes israéliens se livrent au même genre d'activité.
Dans l'actualité internationale, à souligner aussi les obsèques hier vendredi sous haute sécurité du président Jovenel Moïse, 15 jours après son assassinat, qui a encore davantage plongé Haïti dans l'incertitude. À noter aussi des tirs de roquettes sur Kaboul, revendiqués par le groupe État islamique. Enfin, sachez également que les gouvernements américains et allemands ont annoncé mercredi un accord pour clore leur dispute au sujet du gazoduc controversé Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, mais les opposants à Joe Biden dénonce un cadeau au président russe Vladimir Poutine. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Gérard Prunier, grand africaniste qui vient d'écrire « Cadavre noir » aux éditions Gallimard dans la collection Tract. J'ajoute à propos de cette affaire Pegasus, Gérard Prunier, dont j'aimerais que vous nous parliez peut-être, que la société France Média Monde, notre société, a exprimé son indignation après ces révélations et que les sociétés de journalistes de RFI, de France 24 dénoncent également ce procédé d'espionnage et appellent à une meilleure réglementation des technologies de surveillance et à une meilleure protection des journalistes à l'échelle mondiale. Fin de citation. Là, on n'est plus dans l'écoute de masse comme l'avait révélé Edward Snowden, par exemple, en 2013. On est dans un système d'écoute très, très ciblé.
Bien sûr. Et c'est évidemment beaucoup plus efficace. Parce que ça sert à rien d'écouter des masses et des masses de gens qui ne disent que est-ce que vous avez trouvé des œufs chez l'épicier ce matin. Bon, et ce qui m'amuse beaucoup, c'est la réaction de Kagame, ou en fait son ministre, c'est-à-dire de son haut-parleur, qui dit ah ben non, nous, on est des Africains, on n'a pas la capacité technologique de. Mais il prend les gens pour des imbéciles, c'est incroyable. D'abord, les Africains ont parfaitement la capacité technologique de le faire, y compris si c'est diabolique et méchant, pas uniquement, mais aussi celle-là. Et mais il se dit, j'ai réussi à tromper tout le monde sur ma véritable activité politique dans le monde. Je suis le héros de l'Afrique, etc. Ben, ils sont tellement bêtes, les Blancs. Je vais peut-être réussir à leur vendre cette salade. Incroyable. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. Mais il se dit vraiment, vu le mépris dans lequel on tient l'Afrique et les Africains, vu le fait que on est un petit peu considérés comme des imbéciles, bah, je vais dire qu'on est des imbéciles. Et comme ça, ça va marcher. Et comme ça, il y a beaucoup de gens qui diront, oh ben non, c'est une calomnie. Je trouve ça formidable.
Vous connaissez d'ailleurs Paul Kagame. J'ai lu un portrait que vous avez dressé de lui, brossé de lui sur le site de l'Institut Montaigne, où vous dites que Paul Kagame n'est pas un dictateur africain parmi d'autres.
Non, il est spécial. D'abord, il est beaucoup plus intelligent. Paul, je sais que tu m'écoutes.
Peut-être bon, par Pegasus.
Bien, il parle pas bien le français. Bon. Mais on te traduira. Hein. Bon. Tu es beaucoup plus intelligent que la moyenne. Bon, il y a qu'à voir le président de la Guinée équatoriale ou le président du Congo Brazzaville ou tout ça. Bon, t'es quand même plusieurs brassés au-dessus. Et donc, et en plus, c'est intéressant que Pegasus, tu l'aies acheté et tu t'en serves, et je suis sûr que tu t'en sers avec habileté. Les autres, ils y ont même pas pensé, ils savaient même pas que ça existait. Qu'il y avait des Israélos qui étaient prêts à vendre ça à quelqu'un qui paierait suffisamment. Toi, tu l'as su. Toi, tu l'as utilisé. D'ailleurs, comme tu as fait planter un arbre à Yad Vashem pour essayer de lier le génocide au Rwanda, au génocide des Juifs, parce que tu t'es dit, il y a un capital politique fabuleux à glaner dans cette histoire. Bon, tu comprends les choses. Tu sais quoi faire. Bon. Et t'as beaucoup de collègues qui sont brutaux, mais bêtes. Toi, tu es brutal et intelligent.
Alors, je rappelle que vous connaissez Paul Kagame. Ses propos sont vifs et vous engagent, Gérard Prunier.
Mais vous avez. S'il me fait assassiner, au moins on saura pourquoi.
Vous avez l'habitude de la franchise. Parlons aussi de la responsabilité des chefs d'État africains dans ce marasme, dans cette situation que connaît l'Afrique aujourd'hui. Vous revenez sur cette célèbre expression à propos de l'Union africaine, ce syndicat de chefs d'État.
Oui, c'est Nyerere qui l'a employé. Oui. En 1978, si je ne m'abuse, quand il a été envahi par Idi Amin Dada et qui s'est précipité en disant « Aidez-moi, il y a le fou d'à côté là qui est en train de... » Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a envahi la Tanzanie ? C'est à peine croyable, mais on peut mal imaginer ça. Parce qu'il n'était plus capable de payer son armée et qu'il a dit à ses soldats « Envahissez à côté, c'est tous des abrutis, vous avez qu'à piller autant que vous voulez. » Et sous-entendu, violer toutes les femmes. Bon. Donc, il les a jetés comme une horde de barbares sur la Tanzanie. L'armée tanzanienne a réussi à les repousser. Il a été à l'Union africaine, qui s'appelait OUA à l'époque, Organisation de l'Unité africaine, en disant « Aidez-moi ». Et on a dit « Ah non, c'est pas possible, parce que il y a 2 ans, c'est lui qui était le président de l'OUA, Idi Amin ». Et c'est là que la colère de Nyerere, qui était un homme, il a dit « Et vous vous prenez pour quelque chose ?
Vous n'êtes pas l'unité africaine. Vous êtes un syndicat de chefs d'État.
À la lecture de votre pamphlet, il y a cette impression que l'Afrique est dans une spirale infernale. Donnez-nous quand même des raisons d'espérer, vous qui connaissez l'Afrique.
L'histoire. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont 500 ans devant eux ? Parce que n'oublions pas qu'après la chute de l'Empire romain, et bon, on peut comparer la décolonisation dans les années 1960 à un phénomène de ce genre. Bon, les Romains se sont effondrés, résultat, on a sombré dans une barbarie épouvantable. D'ailleurs, c'est intéressant, quand vous êtes un Européen, vous étudiez l'histoire européenne, il y a la fin de l'Empire romain au 5e siècle, et puis vers l'an 1000 à peu près, on voit apparaître quelque chose qu'on appelle le Moyen-Âge. Bon, et ça commence à être les Capétiens en France, la transformation du régime en Angleterre après la conquête normande, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre 500 et 1000 ? Je pense, monsieur, vous êtes un homme cultivé, vous savez beaucoup de choses. Je pense que vous ne parviendrez pas à répondre. À part Charlemagne, qui a tenté de restaurer l'Empire romain, il n'y a rien. Eh bien, l'Afrique est dans le même trou à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que l'organisation de l'unité africaine a échoué. Et parce que, bon, Haïlé Sélassié, qui a été le fondateur de l'OUA en 1964, disait peut-être ça va être un lobby planétaire. Et moi, qui suis le symbole de l'Afrique, puisque c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé, je vais pouvoir avoir une influence mondiale.
Oui. Oui.
Et il a essayé ça. Ça n'a pas marché, ça a foiré complètement.
Et ce qui est frappant, c'est que les propos que vous tenez vont à l'encontre d'autres propos que l'on entend souvent, disant que l'Afrique est le continent de l'avenir, avec sa population jeune et ses fameuses classes moyennes, vous en parlez d'ailleurs dans ce tract, qui montent, enfin qui semblent...
Mais c'est une plaisanterie, l'histoire des classes moyennes africaines, parce qu'il faut rapporter ça au PIB... Et aux chiffres qu'on nous cite, alors les classes moyennes africaines, c'est les gens qui gagnent plus de $200 par mois. Ah bah dites donc. Alors si les classes moyennes en Europe, c'était les gens, ne parlons même pas qui gagnent, mais au SMIC, vous seriez dans les classes moyennes. Hein, vous êtes un Français, vous gagnez 1000 euros par mois, vous êtes les classes moyennes.
Avant de continuer à parler de l'Afrique, Gérard Prunier, un mot de l'actualité française ces derniers jours. Sachez simplement que l'Assemblée nationale a donc adopté vendredi en première lecture le nouveau projet de loi anti-Covid, le 9e depuis mars 2020, qui prévoit donc l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, alors qu'une 4e vague submerge le pays. Et en politique, notez que Valérie Pécresse, fraîchement réélue à la tête de la région Île-de-France, s'est lancée à son tour dans la course à la présidentielle à droite, une façon de ne pas laisser Xavier Bertrand occuper seul le terrain pendant l'été.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages, un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Kaou Kolébé qui nous écoute à Conakry, à Paul Axel à Abidjan, à Tahir au Tchad, bonjour à Alfred à Bukavu en RDC, à Aziz à Libreville, à Charles et à Rony à Kinshasa et à Abdafrika en Guinée. Je salue notre fidèle Rougi Yatou, une des rares auditrices à nous écrire. Elle nous suit à Dakar. Merci Rougi Yatou, bonne fin de semaine. Et dans la capitale sénégalaise, je dis bonjour également à Ablo Sokar et à Amadou Oumar.
Une semaine d'actualité.
Gérard Prunier, nous allons dans votre pays, l'Éthiopie, la guerre du Tigré lancée en novembre, qui oppose l'ancien pouvoir régional au pouvoir fédéral d'Addis Abeba, débordé désormais dans la région Afar, une zone à l'est du Tigré. Difficile de donner des chiffres, mais peut-être en avez-vous, on en parlera dans un instant, et d'obtenir des informations indépendantes, mais les affrontements durent depuis bientôt une semaine, faisant craindre un lourd bilan. À Nairobi, correspondance régionale de Sébastien Nemet.
Les violences ont fait des victimes, mais impossible encore de savoir combien. Hier, l'agence éthiopienne de gestion des catastrophes a parlé de 20 morts civils, principalement des habitants pris dans des tirs croisés. Selon différentes sources officielles, il y aurait aussi 50 à 70 000 déplacés. Ce serait le mouvement rebelle du Tigré qui aurait déclenché les hostilités. Le groupe aurait entamé son incursion en zone Afar samedi, parlant d'abord d'une action très limitée. Les combats se seraient vite engagés contre une coalition regroupant forces spéciales locales, des miliciens et l'armée fédérale. Les autorités régionales ont rapidement appelé la population à les soutenir et à s'engager dans la police et les forces spéciales. Le gouvernement Afar a aussi demandé aux autres régions éthiopiennes de lui prêter main forte. La région est stratégique car elle est traversée par la route et la ligne de chemin de fer reliant Addis Abeba au port de Djibouti, qui est le seul accès à la mer de l'Éthiopie. Au premier jour des combats, Getachew Reda, porte-parole des forces rebelles tigréennes, avait déclaré ne pas être intéressé par des gains territoriaux, mais nous voulons détruire les capacités militaires ennemies, avait-il expliqué. Possible donc que les forces rebelles cherchent à couper cet axe crucial. En tout cas, le cessez-le-feu déclaré fin juin par Addis Abeba semble bien loin.
Il faut aussi savoir qu'une coalition de 11 organisations de la société civile érythréenne demande l'évacuation urgente des réfugiés érythréens hors du Tigré en Éthiopie. Hélène Kidan est membre du comité exécutif du mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l'homme, signataire d'un appel publié lundi. Elle a expliqué les raisons de cette démarche à Léonard Vincent.
Les réfugiés érythréens sont sous un feu croisé. Leur situation a été compliquée par le fait que l'Érythrée a participé à la guerre dans le Tigré en soutien du gouvernement fédéral éthiopien. Ça les a mis en porte-à-faux. D'abord avec le gouvernement érythréen, qui est le régime qu'ils ont fui. Ensuite, avec le gouvernement éthiopien, qui bien entendu soutient son partenaire érythréen. Et enfin, avec les milices tigréennes, qui appliquent leur vengeance après les atrocités commises par l'armée érythréenne. Les gens sont aujourd'hui dans une situation très dure. Certains sont tués ou enlevés, on ne sait pas où on les emmène. Tout se passe la nuit, les assassinats, les kidnappings, les vols de portables. Il n'y a aucune sécurité, les gens sont terrifiés. Et en plus de cela, aujourd'hui, les réfugiés commencent à faire face à des pénuries de nourriture.
Nous sommes en compagnie de Gérard Prunier, grand spécialiste de la partie est, nord-est de l'Afrique, de la corne de l'Afrique. Alors, quel est votre regard sur la situation aujourd'hui dans ce pays, en proie donc à ce conflit au Tigré, donc ce pays qui est entouré au nord par l'Érythrée, à l'ouest par le Soudan et au sud-ouest par l'Ouganda et le Kenya, et à droite, à l'est, pardon, par la Somalie. Quel est votre regard de spécialiste sur ce conflit qui semble faire tache d'huile?
C'est une catastrophe majeure. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses que je voulais dénoncer quand je parlais dans mon pamphlet « Les cadavres noirs ». Mesdames, messieurs, vous regardez la télévision et vous lisez la presse de votre pays en Europe ou aux États-Unis, vous ne voyez qu'une minuscule, un minuscule fragment de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie est un empire plurinational. Et ça me rappelle un de mes professeurs à Sciences Po, je ne me rappelle plus son nom, d'ailleurs, un homme remarquable, qui avait écrit un livre, ça m'en viendra après, « Tout empire périra ». Et par empire, il entendait comme l'Empire romain, l'Empire ottoman, ou l'Empire austro-hongrois, ou l'Empire tsariste avant 1917. C'est-à-dire que ces grands ensembles multinationaux, et l'Éthiopie en est un petit... sont promis en général à la destruction. Parce que ce qui s'est imposé à partir du XVIe siècle européen, et en même temps au Japon d'ailleurs, à l'autre bout de la terre, c'est l'État-nation. Et l'Éthiopie est un empire multinational. Et d'ailleurs, il se comporte de manière totalement brutale, arriérée. Quand les Tigréens, qui ont longtemps gouverné d'ailleurs cet empire multinational et qui en ont d'ailleurs largement profité. Quand ils se sont vus chassés du pouvoir en 2018, ils se sont repliés chez eux et ils ont fait des élections. Évidemment, ils ont eu la majorité, puisqu'on était au Tigray, et c'était les Tigréens qui faisaient les élections. Bien. Mais immédiatement, Abiy a dit « Vous n'avez pas le droit de faire des élections. » Parce que ces élections sont sécessionnistes ou scissionnistes. Et le résultat, le 4 novembre 2020, il a attaqué le Tigray et ils se sont mis à massacrer tout le monde. Parce que, entre-temps, il avait obtenu la coopération de M. Isaias Afewerki, président
donc l'Érythréen.
De l'Érythrée. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'il avait eu son prix Nobel de la paix. C'est la première fois, d'ailleurs, à ma connaissance, il faudra que j'ajoute ça au livre que je prépare, où on voit un prix Nobel de la paix qui commet un génocide. C'est quand même pas mal. C'est assez extraordinaire.
Parce qu'il y a aussi la question qui se pose du nombre de victimes.
Bon, alors là, c'est très difficile à évaluer. Et je n'ai pas de chiffres. Oui. Je les estime. J'estime qu'il y a entre 50 et 150 000 morts. Vous voyez, la fourchette est assez large. Je pense pas qu'on monte pour le moment à 200 000. Mais étant donné qu'on est au bord de la famine dans toute la région des combats, là, on peut avoir une sorte d'emballement des chiffres des pertes humaines. C'est possible.
Et aujourd'hui, la situation est particulièrement critique pour le pouvoir d'Addis Abeba dans ces combats.
C'est-à-dire que Abiy a le dos au mur. Bon, s'il a de la chance, il aura peut-être une intervention russe, puisqu'il vient de signer un accord avec la Russie. Et là, on change complètement de taille. Or, dans la précédente guerre, celle qui a amené les Tigréens au pouvoir entre 1988 et 1991, justement, les Russes y étaient du côté du pouvoir. Et là, au contraire, ils ont fichu le camp. Gorbatchev a été supplié par Mengistu, qui a dit « S'il vous plaît, aidez-moi, c'est la catastrophe si vous partez ». Ben, il est parti et ça a été la catastrophe pour lui, puisque lui, d'ailleurs, il n'est pas mort.
Oui, parce qu'il faut rappeler que l'Éthiopie a été une dictature marxiste aussi.
Voilà, exactement. Et à l'époque, donc, les Russes étaient de leur côté. Mmh. Et Gorbatchev, justement, avec l'énorme transformation de l'URSS en Russie, le retour à l'Empire, a dit « je m'en vais », parce que c'est comme l'Afghanistan, je suis embarqué dans une histoire, franchement, l'Éthiopie, c'est pas notre guerre, et l'Afghanistan non plus. Et donc, moi, si je pense à la Russie, je rentre chez moi.
Sauf qu'aujourd'hui, la situation est d'autant plus dramatique, enfin, stratégiquement importante pour le pouvoir Addis Abeba, qu'il s'agit de l'avenir de la liaison qui permet à l'Éthiopie d'avoir un débouché sur la mer.
Oui, alors là, c'est inimaginable. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ait un cordon ombilical économique aussi mince et central que l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a aucun accès à la mer. 100% de ses importations et exportations passent par Djibouti. 100%. Pas un peu, 100%. C'est une route que j'ai fait moi-même souvent. Vous avez des milliers de camions, c'est épouvantable. Vous avez un bouchon routier de 400 kilomètres. C'est inimaginable. Vous dépassez Dikhil. Dikhil, c'est le dernier bled d'une certaine importance du côté djiboutien. Et puis ça y est, c'est fini. Vous avez ensuite pratiquement, par choc à par choc, jusqu'à Addis Ababa sur 500 kilomètres. Et ça passe, tout ça passe sur un pont à Millet, sur la rivière Awash. Et les rebelles, comme on les appelle, c'est-à-dire l'ancien gouvernement qui accepte pas d'avoir été viré par le gouvernement actuel. Il y a deux personnes pour le même siège. Si jamais les Tigréens arrivent jusqu'à Millet, font sauter le pont, c'est terminé.
Sept jours en Afrique.
Nous allons, Gérard Prunier, changer de partie de l'Afrique en partant au Mali avec la tentative d'assassinat du président de la transition, Assimi Goïta, à Bamako, mardi. Correspondance de Serge Daniel ce jour-là.
Après avoir échappé à une tentative d'assassinat à l'arme blanche, le président de la transition au Mali donne des indications sur le ou les possibles auteurs. Colonel Assimi Goïta.
Quand on est leader, il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui... à tout moment, peut vouloir tenter des choses pour déstabiliser.
Déstabilisation, le mot est lâché, mais par qui exactement? Quelques heures après son arrestation, l'agresseur, très fatigué, n'avait toujours pas parlé. Il s'est visiblement drogué avant de passer à l'acte, confie une source proche de l'enquête. Alors, acte isolé, c'est une piste, mais pas la seule. Piste djihadiste, les enquêteurs sont prudents et demandent des preuves. Autre piste possible, la rivalité avec des forces obscures pour le contrôle du pouvoir. Ici, à Bamako, au sommet de l'État, on affirme que l'enquête sera minutieuse pour savoir la vérité, toute la vérité. Mais en attendant, la sécurité du colonel Assimi Goïta sera renforcée. Jusque-là, il circulait dans un modeste véhicule pick-up et son cortège comptait un seul motard et moins de 10 véhicules.
D'autre part, sachez que l'armée française a abattu deux cadres de l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, dans le nord-est du Mali, cette semaine. Terminons notre voyage à Raprigny en République démocratique du Congo. Il y a eu mardi un hommage national au cardinal Laurent Monsengwo, l'archevêque émérite de Kinshasa. Son cercueil a été exposé au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, avant son enterrement. Correspondance de Sonia Rollet.
Tu as connu la mort.
Pour cette messe d'exception, c'est l'autre cardinal du Congo qui officie face au président Félix Tshisekedi, à son homologue Denis Sassou Nguesso et à un parterre d'officiels. Fridolin Ambongo rappelle que pour rendre hommage au défunt Laurent Monsengwo, il faut avant tout continuer son combat.
Ce combat, c'est de voir nos dirigeants ne pas se considérer comme des propriétaires de nos pays, mais comme des humbles serviteurs de la nation, on ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Monsengwo si on laisse la population croupir dans la misère, alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité.
Laurent Monsengwo, tout un symbole pour la nation. Cette affiche est placardée partout, jusque sur la façade du Palais du Peuple. Le président Félix Tshisekedi a concrétisé ce sentiment en érigeant le cardinal Monsengwo au rang de héros national.
Suite d'une semaine d'actualité, vous écoutiez ce reportage avec beaucoup d'attention, vous qui connaissez également la République démocratique du Congo, le Congo tout simplement, comme on disait jadis, la gâchette du revolver africain, disait Frantz Fanon. Vous écrivez dans ce tract, Gérard Prunier, au terme vif, c'est un texte assez violent. Vous écrivez ceci, à propos de la dernière élection présidentielle en RDC, il y a eu de vraies élections, résultats connus par le biais de l'Église catholique qui avait ses observateurs dans tous les bureaux de vote. Fayoulou, le candidat de l'opposition, a obtenu 62% des voix, l'opposant Mou Tshisekedi 18% et le candidat du président dictateur Kabila 19%. Et pourtant, c'est Tshisekedi qui a été élu par la commission indépendante, entre guillemets.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Monseigneur Monsengwo est un héros national. C'est pas souvent qu'on peut dire ça, mais là, c'est totalement... Je suis plutôt contre ces distinctions, je suis un peu anarchiste, mais là, c'est un héros national. Et Tshisekedi a raison. Bon. Et pourquoi ? Parce que justement, il a dénoncé la pantalonnade ridicule des élections dont Tshisekedi a été le bénéficiaire, mais c'est uniquement pourquoi ? C'est parce que Kabila s'est dit, il est mou, il est pas très intelligent, je pourrais le manipuler plus facilement que les autres. Et Fayoulou était beaucoup plus difficile à manipuler. Bon. Donc, on a choisi Tshisekedi. Or, Tshisekedi, finalement, a été beaucoup plus intelligent qu'on ne le croyait. Et il a réussi à se dépêtrer peu à peu des liens, c'était Gulliver chez les Lilliputiens, il était attaché par Kabila, par 36 trucs, par des menaces militaires, de coups d'État, par l'argent aussi que Kabila avait en quantité, et il en a piqué assez dans les caisses de l'État pour s'opposer à l'homme même qu'il avait mis au pouvoir, justement, il l'avait mis au pouvoir pour ça, pour le manipuler. Et peu à peu, Tshisekedi est en train de se dégager de cette emprise. Et donc, le fait qu'ils disent Monseigneur Monsengwo était un héros, évidemment, il y a tout intérêt. Parce que ce sont les observateurs de l'Église catholique qui sont à même de dire ce qu'a été cette élection, cette pantalonnade.
Alors que vous écrivez par ailleurs, Gérard Prunier, qu'en RDC, le revenu par tête est aujourd'hui de 430 $ par personne et par an, soit environ 45% de ce qu'il était en 60.
Oui. Quel recul ? On parle de développement africain.
Mais non, c'est ça. La catastrophe, elle n'est pas seulement politique. Pourquoi, d'ailleurs, le Congo est un pays extrêmement riche. Le PIB, le revenu par tête, enfin le PIB et le revenu par tête devraient être très très supérieurs. C'est évidemment parce que le pays est gouverné par des voleurs, qu'il y a de nombreux voleurs européens qui coopèrent avec eux, et israéliens d'ailleurs. Il y a quelqu'un, je ne veux pas dire son nom parce qu'il serait capable d'essayer de m'assassiner lui. Il s'est rendu multimillionnaire sur le dos des Congolais. Et ça ne veut pas dire que le Congo est pauvre. Ça veut dire que le Congo est géré. Ça me rappelle d'ailleurs une remarque d'un autre évêque, parce que je salue l'Église catholique, moi qui suis plutôt anticlérical, bien français, voltairien, je salue l'Église catholique et son rôle en Afrique. Eh bien, un évêque sud-soudanais, à qui on disait « mais enfin, vous êtes battu pour votre indépendance contre les Arabes, etc. Maintenant, c'est terrible. » Et l'évêque sud-soudanais a dit « oh, c'est pas étonnant, nous sommes gouvernés par des singes. » Et comme il était noir, il pouvait le dire. Vous imaginez si un blanc avait dit ça.
Jean Prunier, avec votre franchise et votre ton que les auditeurs auront remarqué depuis le début de cette émission, il faut répondre en quelques secondes presque à une question qui est immense et que nous pose un de nos auditeurs qui habite Niamey, qui s'appelle Jafarou. Pourquoi, au fond, cette indifférence à l'égard de l'Afrique?
Par mépris raciste. Et parce que le poids des Africains n'est pas grave et important. Ils n'ont pas de bombe atomique et ils n'ont pas la capacité à envahir l'Europe ou quoi que ce soit d'autre. C'est tout.
Et vous dites aussi que c'est un continent qui n'intéresse pas la société du spectacle, en quelque sorte.
Parce que, si vous voulez, la seule chose qu'ils avaient avant, c'était les safaris. Bon. Oui. Et maintenant, vu la manière dont la vie sauvage est en train de rétrécir de manière horrible en Afrique, on garde les safaris comme des... Écoutez, je me rappelle d'avoir été au Kenya, pris dans un encombrement de touristes japonais, parce qu'il y avait un léopard qui avait mangé un singe. Et là, mes filles, si elles écoutent ça, elles se rappelleront, elles étaient avec moi, on était dans la même voiture, et il y avait 200 véhicules japonais sur un léopard avec un singe. Bon, vous voyez, la société du spectacle, elle est terminée. Hein. Quand ce spectacle-là... Les Japonais en étaient réduits à se prendre en photo les uns des autres.
Jean Prunier, dites-nous quand même que tout n'est pas désespéré. Dites-le à nos auditeurs, à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont fidèlement au rendez-vous.
Mais non, rien n'est ni espérable ni désespéré. Il y a des gens très bien, il y a des institutions qui marchent. Oui. Vous savez, c'est comme la peau du léopard. Elle est jaune dans beaucoup d'endroits, elle est noire à d'autres. Voilà, l'Afrique, c'est ça. C'est une peau de léopard.
Merci Gérard Prunier. Je recommande ce pamphlet publié chez Gallimard dans la collection Tract qui s'intitule « Le cadavre noir ». Il est très incisif. Merci.
Merci.
Avec, en plus, je l'ajoute, un avant-propos de l'écrivain Marc Duguin. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée. Et nous vous proposerons une rencontre avec une femme de culture, la présidente du musée Guimet, le musée des arts asiatiques. Elle s'appelle Sophie Makariou, nous serons d'ailleurs au musée, avec elle qui a une double nationalité, chypriote et française, qui est aussi spécialiste des arts de l'islam. Nous parlerons de la question des identités, par exemple, et aussi de la restauration des musées ravagés par la guerre et le terrorisme. À ne pas manquer demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.